de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire,
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil?
Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, encore une nouvelle émission et encore des chroniques de films qui sont sur les écrans et puis un blind test. Aujourd'hui, nous allons jouer avec la filmographie de Cécile de France. Mais pourquoi nous allons jouer avec l'actrice belge? Sophia, tu as la réponse.
Et oui, c'est parce qu'elle est l'actrice principale dans Dalloway, le dernier film de Yann Gozlan.
Et puis tu nous parleras d'un film que tu as beaucoup plus apprécié.
Oui, il s'agit de Yes, ou tout simplement Oui. En français, de Nadav Lapide.
Et puis toi, Guillaume, tu as choisi un film qui a cartonné lors de sa première semaine, quasiment 1 million d'entrées, ai-je vu. Je trouve ça prodigieux.
Et pas qu'en France, oui, c'est le quatrième volet de la saga Conjuring.
Mais nous allons commencer avec un film aussi qui fait l'événement. Il était au Festival de Cannes, il a eu le prix du jury. Dans Sirat, Olivier Lax nous entraîne aux côtés d'un père et de son fils dans un road trip hallucinatoire à travers le désert marocain. Et tout cela porté par la fièvre des musiques techno.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
Voilà un film qui fait l'unanimité, qui pourtant sur le papier ne devrait pas réunir les critiques et le public. Prix du jury au dernier festival de Cannes, Sirat a aussi impressionné les jurés emmenés par Juliette Binoche. Mais il ne recèle pas en lui-même des atouts pour une palme d'or, hein, la faute sans doute à une radicalité formelle, structurelle. Sirat appartient à ces films dont le synopsis tient en 3 lignes, hein, les dialogues en 2 pages, l'essentiel étant à l'image, l'essentiel étant du cinéma avec ce qu'il peut offrir de mieux. Une belle image, des personnages incarnés et un récit conduit avec précision. Sirat est une expérience sensorielle, cinématographique en grand format, raison pour laquelle le distributeur s'est abstenu de nous procurer un lien en vidéo à la va-vite et raison pour laquelle il a fallu attendre qu'il soit dans les salles pour le voir.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
Sirat renvoie en arabe à l'image d'un pont suspendu au-dessus du gouffre des enfers que l'on traverse pour accéder au paradis. Alors on l'apprend avant l'entame du film qui nous emmène dans une rêve partie très roots. Nous sommes dans le désert, dans un pays qu'on devine être le Maroc. Je me souviens plus si c'est vraiment désigné comme le Maroc. Et d'ailleurs, peu importe, l'entrée en matière est très très musicale avec des câbles qui se branchent un à un, et la musique qui vient, et les corps nombreux, variés, qui s'expriment à leur manière sur des rythmes techno. La mise en scène est partagée entre l'expression de la foule, du nombre, de la fête, et la mise en avant des individualités. La transe est joyeuse et insouciante avant que 2 personnages qui n'ont rien à faire n'interviennent dans le champ. Il s'agit de Luis, qui, accompagné de son fils Esteban, recherche sa fille aînée qui a disparu. On l'imagine évidemment adepte des rêves partis. La fête est un peu bousculée, voilà le duo qui suit un groupe de rêveurs parti vers un autre rendez-vous. Là s'ouvre vraiment le film, là avance vraiment le récit de ce long métrage d'Olivier Lax, réalisateur franco-espagnol.
Vamos detrás de ellos, venga.
Este coche no va a pasar.
Pues vamos a seguir igual.
¿Dónde es la fiesta?
En el sur, cerca de Mauritania.
À cette exposition d'une fête normative, même si elle est conduite par des individus marginaux, contraste le décor organique du désert avec son sable, ses pistes qui mènent on ne sait où, ses montagnes arides, sa roche immémorielle. Dans ce décor, il y a un road trip. Le spectateur est emmené par ces quelques personnages qui acceptent de conduire le père et son fils dans une autre rêve partie dont on ne saura jamais exactement où elle se passe. La frontière apparente qui existe entre le père et son fils et les fêtards conduisant leur gros camion va peu à peu s'estomper. Si l'un compte garder la nourriture. Il en fait part d'ailleurs à son fils. Hein. Attention à nos provisions. Il la partage finalement, de même qu'il met la main à la poche pour récupérer du carburant. Car sans lui, l'aventure s'arrête, hein, sans carburant. Le spectateur ne le veut pas. On a envie de cette aventure qui se regarde avec simplicité. Olivier Lax y va à l'économie de mots, mais il magnifie les séquences de route, les paysages. Il est évidemment indispensable de regarder Sirat au cinéma. Et au détour des nouvelles écoutées à la radio, eh bien, on découvre qu'on n'est pas tout à fait dans notre monde. Une troisième guerre mondiale pourrait éclater, ce que la petite communauté dans ce désert lointain compte bien oublier. Reste à savoir si on échappe tout à fait, eh bien, aux règles du monde. Il faut évidemment garder en vue le sens du titre du film, de ce pont au-dessus des enfers.
A una.
Aquí solo hay polvo.
Sirat n'a pas seulement eu le prix du jury, il a aussi eu le prix Soundtrack au Festival de Cannes. Il est évidemment porté par une bande originale très, très hypnotique. Sirat fait aussi donc partie de ces films dont le scénario interdit qu'on dévoile certains éléments du récit qui en gâcheraient la vision et le plaisir. Un plaisir donc de spectateur, comme je l'ai dit, qui est aussi synonyme de surprise ou d'effroi ou de suspense, donc que la conduite du récit ne laissait aucunement présager. Voilà, il y a eu des réactions qui peuvent parfois être étrange en salle. Je vous laisse découvrir, si vous ne l'avez pas déjà fait, Sirat, donc un film qui, je crois, a déjà conquis un peu plus de 300 000 spectateurs en France, ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs pour un film cannois. Oui, Sophia.
Et oui, moi je voulais juste attirer l'attention donc sur les extraits audio sonores qu'on a entendus, qui proviennent de la bande-annonce qui a été réalisée par Anthony Bobo, qui est derrière la bande-annonce aussi de 120 battements par minute, de L'Empire de Bruno Dumont, d'Emilia Pérez, de Jacques Audiard. Voilà, donc réaliser un film, c'est pas tout à fait la même chose que réaliser une bande-annonce. Et il y a aussi des noms derrière ça.
Sirat est donc en salle et il est chaudement recommandé. Une journée à Londres suffit pour explorer souvenirs, désirs et secrets d'une femme en quête de sens. Nous parlons de Dalloway et ça va nous donner l'occasion de jouer à un blind test.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Précisez.
Clarissa ? Clarissa ! En séance de minuit à Cannes, Dalloway de Yann Gozlan s'annonçait comme un moment de frisson, quelque part à la croisée du cinéma d'anticipation et du thriller psychologique. Il faut dire que le réalisateur avait marqué des points avec Un homme idéal, Burnout ou encore Boîte noire en 2020. Un joli triplé qui lui vaut une certaine fanbase dont tu fais partie, Guillaume, je veux pas t'afficher. Alors, le retrouver sur ce terrain technologique et paranoïaque avait de quoi éveiller la curiosité, d'autant que le film s'appuie sur un roman de Tatiana Ronet, Les fleurs de l'ombre, réécrit à six mains avec une intelligence articulée à plusieurs cerveaux pour y injecter justement tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Sur le papier, la promesse était excitante. Sur l'écran, on verra que c'est une autre histoire.
Bonjour Clarissa. Il est 7h10.
Test négatif.
Remets-moi où j'en étais hier, s'il te plaît.
Je vais réécrire, ça va pas.
Tu vas y arriver.
Since its creation, the residence mission has been to support the artists who give themselves to their art.
Vous en êtes où dans votre écriture?
Tu n'as pas l'air satisfaite.
Tu peux lire ce que j'ai écrit?
Ce soir, Lucas sera mort. Il va mourir le jour de son anniversaire.
Et il est avec la voix de Lucas.
Ce soir, je serai mort. Je vais mourir le jour de mon anniversaire.
Clarissa Katzeff, interprétée par Cécile de France, est une écrivaine en panne d'inspiration. Et pour retrouver l'élan créatif, elle intègre une luxueuse résidence d'artiste dirigée par la mystérieuse et charismatique Anne de Winter, jouée par Anna Mouglalis. Design futuriste, confort high-tech et surtout une intelligence artificielle mise à disposition de chaque résident et résidente, une sorte d'assistante personnelle domotique dont la voix troublante n'est autre que celle de Mylène Farmer. Alors d'abord discrète, l'IA se fait rapidement envahissante au point de s'immiscer dans le travail et jusque dans l'intimité de Clarissa. Elle ajuste la lumière, suggère des phrases, fouille dans les souvenirs les plus douloureux et la pousse à affronter un traumatisme ancien dont elle refuse encore de parler. Bon, cette présence virtuelle semble se nourrir véritablement de sa vulnérabilité et dépasse de son cadre. Peu à peu, la romancière bascule dans une méfiance grandissante, d'autant plus qu'un autre résident, incarné par Mikkelsen, lui fait découvrir tout un réseau alternatif de résistance. Et nous voilà embarqués dans un huis clos étouffant dont le scénario tend vers des situations de plus en plus ubuesques.
Continue, maman. Continue d'écrire.
Reprends ta voix, s'il te plaît.
Bien sûr, pardon. C'est la dernière fois que tu as vu Lucas.
Pourquoi tu veux savoir ça ?
He wants to be your friend, to get to know you inside out.
Je perçois de l'hostilité envers moi. Si tu as des inquiétudes...
Qu'est-ce qui te fait dire que j'ai des inquiétudes ?
Ton silence.
Quand même, ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant, toute cette histoire. Autour du deuil, de la folie lorsque pandémie et crise écologique se rencontrent en grand fracas, une ode à la nécessité de traverser ses propres paysages désolés, une réflexion sur le rapport intime et à la dépendance qu'on entretient aux IA. Il y a quand même une forme d'intériorité dans ce dispositif, une femme qui se retrouve enfermée dans sa propre tête, puisque cette IA la renvoie en permanence à une introspection perpétuelle. C'est comme une chambre à écho numérique. Un asile molletonné dont le silence farmer assourdit, un cachot d'expiation. Mais arrêtez-moi, j'en deviens bien trop poétique alors qu'à dire vrai, le film est un thriller aussi mou du genou que gueulard. Alors libre à vous d'aller en juger par vous-même, notamment si vous voulez voir Cécile de France s'égosiller pendant 45 minutes. Moi j'ai presque entendu Mylène Farmer fredonner en arrière-plan « Tout est chaos ». Yann Gozlan, t'es à côté. Mais bon, par contagion, j'ai sûrement fini moi aussi complètement parano-i-hack. Et puis, c'est pas tellement qu'il est à côté, c'est qu'il arrive peut-être un tout petit peu tard, ce film, en 2025, et foire son coup, là où Spike Jonze dans Her, il y a plus de 10 ans, abordait la question avec subtilité et mélancolie, et où Black Mirror pousse encore chaque épisode depuis 2011 vers un miroir cruel de nos obsessions.
Ce film, Dalloway, nous donne l'occasion de jouer donc un blind test autour de la filmographie de Cécile de France, qui doit avoir, je ne sais pas, 30 années de carrière, j'imagine. Nous avons sélectionné 5 films. Il faut évidemment trouver les titres. Voici le premier extrait.
Vous allez quelquefois au concert ?
Oh, ça ne me viendrait pas à l'idée, hein.
Et pourquoi ?
Ben, parce que j'aime bien la musique, mais comme ça, quoi. Le classique, ça me joue... Enfin, je connais mal, en fait.
Vous connaissez ?
Bah ouais.
À vous dire, je me rends, ce qui cause mon tourment. Papa veut que je raisonne comme une grande personne. Mais je sais que les bonbons valent mieux que la raison.
Mozart.
Oh !
Ça me rend fou.
J'ai jamais appris, moi, j'ai aucune éducation musicale.
Vous excusez pas. Vous excusez pas, c'est moi qui m'excuse.
Non, pourquoi ?
Parce que vous avez 20 ans. Parce que vous chantez juste, et parce que ça vous viendrait pas à l'idée d'aller au concert. Parce que pour vous, c'est un monde à part, un monde chic, cher, non ?
Ouais.
C'est trouvé, Guillaume.
Oui, c'est Fauteuil d'orchestre.
Oui, film de Daniel Thompson de 2005 avec Albert Dupontel qui donne la réplique à Cécile de France, une jeune provinciale montée à Paris avec l'espoir d'une vie plus brillante. Engagée comme serveuse dans un café près d'un théâtre, elle croise artistes, collectionneurs et musiciens en quête de sens, et à travers ces rencontres, le film esquisse une réflexion tendre et légère sur le bonheur et la réussite. 2 millions de spectateurs en France pour ce film. Deuxième extrait, nous cherchons un titre avec Cécile de France.
C'est vraiment con, mais bon, je me suis toujours demandé. Vous utilisez parfois des trucs genre God entre filles.
C'est marrant parce que souvent vous les mecs vous comprenez rien aux femmes. C'est con, je trouve chaque sexe est dans son coin sans s'intéresser vraiment à l'autre. Alors que je suis sûre que si un mec avait vraiment envie de s'intéresser aux femmes, ce serait le roi du pétrole.
Comment ça ? C'est-à-dire ?
Je sais pas, vous arrivez pas à comprendre que les femmes ont une psychologie différente de la vôtre. En plus, vous connaissez mal le corps des femmes, ce qui lui donne vraiment du plaisir.
Mais pourquoi tu dis ça ?
Vous croyez qu'il y a que votre bite qui donne du plaisir alors que les caresses, c'est vachement important.
Ah oui, ça je sais.
Ouais, tu sais, mais tu fais certainement pas bien.
C'est un film qui l'a révélé.
Oui, elle y jouait la copine gay de Romain Duris, c'est dans L'Auberge espagnole.
Oui, tout à fait. Film de Cédric Clapiche de 2002. Xavier étudiant français en économie part à Barcelone pour un programme Erasmus. Il y découvre la vie en colocation avec des jeunes venus de toute l'Europe. Allez, troisième extrait de ce blind test consacré à la filmographie de Cécile de France.
Est-ce que vous ne vous apercevez pas que je n'ai plus la même gaieté ? J'ai perdu l'appétit, je ne bois et je ne mange que par raison, je ne saurais dormir. Alors la nuit, je m'interroge et je me dis, Est-ce que le marquis est moins aimable? Non. Est-ce que vous auriez à vous en plaindre? Non. Auriez-vous à lui reprocher quelques liaisons suspectes? Non. Est-ce que sa tendresse pour vous est diminuée? Non. Alors, pourquoi votre ami étant le même, votre cœur est-il donc changé? Car il l'est. Vous ne pouvez vous le cacher. Vous ne l'attendez plus avec la même impatience. Vous n'avez plus le même plaisir à le voir. Cette inquiétude quand il tardait à revenir. Cette douce émotion au son de sa voiture quand il paraissait, quand on l'annonçait. Vous ne l'éprouvez plus.
Ça sèche en studio. C'était 16 ans après L'Auberge espagnole. Hein. Elle était beaucoup plus mûre, Cécile de France. C'est un film d'un réalisateur plutôt estampillé art-essai. Bizarrement, il est marseillais, mais il ne fait pas du tout marseillais. C'est Emmanuel Mouret et c'est Mademoiselle de Jonquière.
Je n'ai pas vu.
Oui, c'est Édouard Baird qui donne la réplique. Au XVIIIe siècle, la marquise de la Pommeraye, trahie par son amant libertin, le marquis des Arcis, décide de se venger. Elle manigance une rencontre entre lui et Madame de Jonquière, une jeune veuve pieuse qu'elle manipule, mais ce jeu cruel prend une tournure inattendue lorsque l'amour s'en mêle. Un peu plus de 540 000 entrées en France pour ce film. Quatrième extrait, nous cherchons un film avec Cécile de France.
Je voudrais rentrer à l'Académie.
C'est déjà fini l'Afrique?
Je me suis renseignée et à l'école où est Annie, il y a une préparation au concours.
Mais qu'est-ce qu'elle a encore été te mettre dans la tête, cette fille?
Je suis assez grande pour savoir ce que je veux faire.
L'Académie.
Laisse-la parler, Camille, elle est quand même...
Enfin, Lucien, tu crois pas qu'elle a d'autres priorités?
Et pourquoi ce serait pas une priorité?
Oh, toi, mange. Et t'en mêle pas. Trouver un mari, fonder une famille, ça, c'est une vraie priorité. Quand je vois Pierre, gentil que...
Oh, arrête avec Pierre, s'il te plaît.
Ça sèche encore une fois dans le studio, film de 2008. Janine Dekkers, une jeune femme belge passionnée de guitare et de foi, entre dans les ordres et devient Sœur Luc Gabriel.
Ah, c'est Sœur Sourire.
Oui, oui. Sœur Sourire.
Lointain biopic, ça.
Oui. Oui. Un disque qu'elle enregistre sous le nom de... Sœur Sourire connaît un succès mondial avec la chanson Dominique, mais derrière la célébrité se cache solitude, doute et désillusion. 150 000 entrées en France pour ce film. Allez, c'est le dernier extrait et on va encore en Belgique.
Tu te souviens ce qu'a dit la psychologue? Elle a dit que si tu venais chez moi dans la cité où avait habité ton père, tu repenserais trop à lui. Alors, ce serait peut-être mieux que je te prenne seulement le dimanche. Qu'on aille quelque part, à la campagne, à la mer, et que je te reconduise le soir. Qu'est-ce que t'en penses? Chérie, le regarde-moi.
Je voudrais voir l'homme qui t'a vendu mon vélo.
Pourquoi? Pour lui dire que c'est un voleur?
Non, mon père lui a vendu. J'ai vu l'annonce qu'il a mise à la pompe à essence.
Et qu'est-ce que tu veux lui dire?
Pose une question sur mon père.
J'ai gardé son numéro de téléphone. Tu veux qu'on l'appelle?
Oui.
Est-ce que ça a été trouvé? Non, ça n'a pas été trouvé. Alors, là, je vais donner un indice facile. Ce sont deux frères réalisateurs. Ils sont belges.
C'est les Larieux?
Alors, non, ce n'est pas les Larieux, c'est les Dardennes, oui. Et c'est le gamin en vélo. Il y avait un petit indice, hein, parce que le gamin en question parle de son vélo. Abandonné par son père, Cyril, 12 ans, est placé en foyer, mais refuse de renoncer à son vélo, seul lien avec lui. Et dans sa quête éperdue, il croise Samantha, une coiffeuse, qui accepte de l'accueillir le week-end. 529 000 spectateurs en France pour ce film. Voilà, ainsi s'achève ce blind test consacré à la filmographie de Cécile de France. Et voici un petit bonus.
Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique, par sa joie, le convertit.
Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout
c'est
Charmant.
Jolie frimousse, jolie voix.
Ça peut marcher. Dieu.
C'était évidemment un extrait du film Sœur Sourire qui faisait partie de ce blind test. Changeons de registre, les enquêteurs du paranormal affrontent une terrifiante force maléfique qui menace une famille innocente.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Mais avec joie.
Le diable est arrivé en Pennsylvanie.
Janet Smurl prétendent qu'une présence diabolique s'est introduite dans leur maison.
8 personnes vivent dans cette maison.
8 personnes ont assisté à tout ça. 8 personnes ne peuvent pas toutes être cinglées.
Alors que sonne l'heure du jugement, le quatrième et supposément ultime volet de la saga The Conjuring, mais il est aussi temps pour le spectateur de faire un petit bilan de ce qui est devenu un véritable empire de la terreur made in Hollywood, sa façade et son envers du décor. Alors je parlais juste avant de saga et le terme n'est pas galvaudé. The Conjuring est rien de moins que l'univers horrifique le plus prolixe et rentable du XXIe siècle. Et s'il se fait dépasser par des franchises, comme on appelle ça maintenant, comme Saw ou Insidious en nombre de films, c'est pour mieux les coiffer au poteau en termes de box-office. Alors The Conjuring Last Rites, ou donc l'heure du jugement chez nous, a signé le plus gros démarrage de box-office américain de l'histoire pour un film d'horreur classé R, avec presque 200 millions empochés. Les chiffres sont vertigineux et ça l'est encore un peu plus lorsqu'on sait que d'ailleurs The Conjuring, comme Saw ou encore tiens Insidious, il y a le même nom, James Wan, un homme qui transforme tout ce qui touche en or, sauf, il faut bien le dire, la plupart des scénarios qu'il se contente de produire, comme c'est le cas ici.
Donc, ça a commencé quand ?
À la confirmation des heures.
Le 7 septembre.
Il y a une présence dans le grenier.
Ed, il y a un démon ici. Quelque chose que j'ai déjà ressenti.
The Conjuring, l'heure du jugement, succède donc à 3 films principaux et pas moins de 6 films dérivés, dits du même univers, les 3 Annabelle, La Malédiction de la Dame Blanche et les 2 La Nonne. Il est réalisé par Michael Chavez, Yes Man de One, déjà coupable des assez nuls, donc La Malédiction de la Dame Blanche, La Nonne 2 et du 3ème Conjuring. Alors histoire de dire au revoir à Vera Farmiga et Patrick Wilson, qui avaient réalisé le piteux 5ème volet d'Insidious dans lequel ils jouent aussi, donc dans les rôles de Lorraine et Ed Warren qu'ils interprètent depuis maintenant 12 ans, ben on ressent sort la formule bien rodée du prologue les montrant à leur tout début avec une Lorraine enceinte jusqu'aux yeux qui s'est apparemment dit que ça serait bien de mixer 9e mois de grossesse avec séance médiumnique et face à la seule manifestation surnaturelle qu'ils ne sont jamais arrivés à repousser de leur carrière. Comme de par hasard, cette entité démoniaque est liée à leur fille née suite à cette nuit de terreur et ce n'est que lorsque cette dernière est désormais majeure, fiancée à un jeune mais déjà ex-policier compréhensif et dotée des mêmes pouvoirs de voyance que sa mère, que cette émanation des ténèbres se ressurgit dans leur vie.
Cette chose, dans votre maison, c'est un démon. C'est le premier qu'on ait jamais rencontré. Nous étions jeunes et nous avons eu peur. On a renoncé.
Alors autant le dire, l'aspect surnaturel du film est inconsistant et se règle à la toute fin, comme d'habitude, et par flemme, par 3 pages de la Bible lue en criant bien fort face à une machine à fumer, couplée à un ventilateur qui envoie tout valdinguer dans une maison. Alors non, ce qui rend le visionnage du film pas si désagréable est l'implication presque étonnante de ses comédiens. Farmiga et Wilson aiment profondément les Warren, quand bien même il a été établi qu'ils furent en réalité d'horribles crapules, profitant toute leur vie de la faiblesse de familles et femmes fragilisées et nous implique avec eux. Alors ils bouffent littéralement l'écran, captivent et meuvent même, alors que l'antagoniste est un miroir issu d'une brocante, oui, un foutu miroir, un peu comme dans l'hilarant Amityville 4 où le mal se transmettait via une lampe suite à une vente aux enchères des objets présents dans la célèbre maison du diable. Bref, vu le succès, on n'est pas dupe, la fille des Warren et l'homme qu'elle épouse ont été probablement écrits par les producteurs pour prolonger la saga, à moins qu'ils préfèrent développer les jeunes années d'Ed et Lorraine comme dans le prologue, en leur souhaitant néanmoins plus de chance avec les objets ménagers. Alors, si Vera Farmiga vous manque déjà, c'est un petit peu mon cas, sachez qu'à 50 ans passés, elle vient de fonder avec son mari un groupe de métal nommé The Yagas, tiens, en référence à une figure féminine surnaturelle de la mythologie slave, et que le premier album est franchement pas mal du tout. C'est pas trop le cas de Conjuring 4.
Ce film fait pourtant une belle carrière. Il est en salle depuis le 10 septembre. Dans Oui ou Yes, en version originale, un musicien et sa femme confrontent art et pouvoir dans un monde bouleversé. C'est le dernier film de Nadav Lapid.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre, moi.
Il y a des films qui vous accueillent avec un sourire, d'autres avec une claque. Yes ou Oui, dans sa traduction française, fait clairement partie de la seconde catégorie. Nadav Lapid, qui signe avec ce film sa 5e réalisation, après notamment Synonyme ou encore Le Genou d'Aed, prix du jury à Cannes en 2021, n'a jamais mâché ses mots ni ses images. Et cette fois, présenté à la quinzaine des cinéastes en 2025, puisqu'il a été rebuté de la compétition officielle, il fait un portrait outrancier, outré même, de son pays, Israël, sous la férule du gouvernement Netanyahou, qu'il filme donc de l'intérieur et en hébreu, comme une société décadente, obsédée par l'argent et la propagande, prête à dire oui à tout, quitte à se perdre totalement. Ironie suprême, alors le film est en grande partie financé par un fonds indépendant, l'Israel Film Fund, et affiche dans ses crédits le ministère de la culture israélien, alors même qu'il crache sur le gouvernement avec une jouissance inouïe. Le film s'ouvre à toute allure sur un plan séquence hallucinant. On est plongé dans une fête de milliardaires où l'excès est roi. Alcool, fric, démesure. Je n'avais rien vu de tel depuis la séquence d'ouverture de Climax de Gaspard Noé sur le Supernature de... Ici, il y a quelque chose d'encore plus tourbillonnant. Au milieu de ce chaos, c'est un couple qu'on suit, Jasmine, danseuse magnétique, et Y, son mari, un pianiste de jazz clownesque, bouffon, aussi génial que pathétique. Leur numéro est une chorégraphie effrénée qui donne le ton, hein. Oui, tout est outrance, tout est spectacle chez les puissants. Mais derrière la fête, il y a une réalité plus trouble, hein, car Y est bientôt recruté pour mettre en musique une chanson nationaliste, un hymne modifié où des enfants chantent la destruction de Gaza. Une commande qu'il accepte pour l'argent. Avec Jasmine, ils forment un duo déjanté, parents d'un enfant né le 7 octobre. Couple à la fois passionné et autodestructeur. Les cahiers du cinéma y voient d'ailleurs des Sailor et Lula à Tel Aviv. Un même élan trash-rock habite en effet ces personnages, hein, bel et bien wild, hacker, mais qui ont lâchement renoncé à la morale, miroir d'une société gangrénée qui se consume dans son propre délire. Voilà, contraction entre déni et délire, c'est cadeau. Avec Yes, Nadav Lapid pousse son cinéma dans l'excès jusqu'à la nausée. La première heure est véritablement une gifle visuelle, en caméra en transe dont les mouvements incarnent l'énergie sonore, techno, saturation des corps, des couleurs, des substances. On est vraiment happé dans un tourbillon sensoriel, satirique, qui dit beaucoup de cette société israélienne filmée comme une jet-set désaxée, obsédée par sa propre grandeur. Une société prête aussi à se prostituer, hein, au sens propre comme au figuré, car ce couple, modeste, hein, pour ne pas dire précaire, Jasmine et Y, incarne la compromission totale. Ils disent oui à la gloire facile, oui au fric sale, oui à la propagande, oui à faire orgasmer une vieille milliardaire en lui léchant les oreilles. Et le personnage d'Y, ersatz du réalisateur hein, dans tous ses films, incarne le paroxysme de la lâcheté. Mais Lapid ne se contente pas de montrer cette ivresse hypocrite. Hein. La seconde partie, puisque le film est articulé en trois actes, bascule dans un calme trompeur. Y face à lui-même, face à cette chanson fasciste hein, qu'il accepte de mettre en scène, face enfin à Gaza. À Tel Aviv, en fait, la musique est poussée toujours plus fort pour couvrir le bruit des bombes. D'ailleurs, le cinéaste use d'une coquetterie de mise en scène pour intégrer dans la première partie les échos du massacre en cours. Un bing qu'on entendait justement dans la bande-annonce, hein, un bing guilleret hein, d'une notification push qu'on reçoit sur son téléphone. Et tout d'un coup, les bruits des immeubles qui s'effondrent et de la guerre voilà, qui sévit en prenant des vies surgit en off dans la diégèse. Alors, toute la mise en scène repose vraiment sur cette violence étouffée, déplacée, évacuée par l'écran ou par le son. Comme si dire oui consistait surtout à détourner le regard. Alors oui, le film est outrancier, brouillon parfois, mais il y a chez Lapid un courage, une fureur qui le distingue. Oser mordre la main qui finance, oser filmer son pays comme une décadence, oser se confronter au déni qui entoure Gaza. Le casting est haut en couleur. Ephrat Dor, qui est Jasmine, et Ariel Bronze, Y, sont absolument magistraux. Et derrière ce chaos, il y a une vraie question hein, que vaut un artiste, que vaut un homme quand il accepte de dire oui à l'inacceptable. Nadav Lapid a le mérite d'hurler, hein, quant à lui, un grand non à son pays, dans cette farce satirique qui laisse des traces. Une des plus grandes claques hein, du festival pour moi, avec le film de Kristen Stewart, hein, dont je vous parlerai bientôt en octobre.
Ce film de Nadav Lapid a une cinquantaine de copies en France. Et voilà, et si vous le ratez sur les écrans, vous pouvez voir les précédents. J'avais vu son précédent qui était déjà à charge hein, contre l'État israélien.
Je vous trouve si nerveux. Quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite. Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir.
De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine avec plusieurs films, dont le dernier Paul Thomas Anderson.
Ne pas confondre avec Paul W.S. Anderson.
Et non. Et toi, Sophia, tu auras aussi un documentaire.
Oui, après cette incursion dans l'État d'Israël, on va directement dans la bande de Gaza avec le documentaire Put Your Soul on Your Hand and Walk.
À la semaine prochaine.